l'amitié a été pour moi quelque chose de considérable.
Antoine Blondin.
Pour moi, voir quelqu'un, c'est une célébration. Or, une célébration, c'est rituel, ça s'accompagne d'un verre. Ici, dans le village où nous sommes, il y a une expression qui dit « finissez d'entrer ».
Ça peut pas faire de mal.
Et « finissez d'entrer », ça veut dire « buvons un coup ». Et moi, je trouve ça extrêmement bien, que ça se noue, que les rapports se nouent autour d'un verre. Mais on ne peut pas bouffer toute la journée, alors que j'ai constaté qu'on pouvait facilement boire très très souvent.
Mais vous mettez les rapports entre les individus au-dessus de tout dans la vie.
Absolument.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Une nuit sur deux, Quentin Albert descendait le Yangtze-Kiang dans son lit bateau. 3000 km jusqu'à l'estuaire. 26 jours de rivière quand on ne rencontrait pas les pirates. Double ration d'alcool de riz si l'équipage indigène négligeait de se mutiner. Autant dire qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Déjà, la décrue du fleuve s'annonçait au niveau d'eau établi par les Européens sur les parois rocheuses. D'une heure à l'autre, l'embarcation risquait de se trouver fichée dans le limon, comme l'arche de Noé sur le mont Arara. Quentin se complaisait à cette péripétie qui lui permettait de donner sa mesure. Sans tergiverser, il s'enfonçait à l'intérieur des terres pour négocier l'achat d'un train de buffles et soudoyer des haleurs. Puis la navigation reprenait son cours sur l'oreiller. Madame Quentin ne s'était même pas réveillée. Parfois, on croisait une jonque chargée de peaux de yak qu'on amenait du Tibet pour en extraire le musc. Parfois, d'autres bateaux chinois débordant d'excréments humains, cotés au poids de l'or à la bourse aux engrais de Chongqing. Et il arrivait qu'on rasât un village, ou plusieurs. La lueur des incendies où s'abîmaient les paillotes se confondait alors avec le reflet des zèbres flamboyants que les phares de voitures filant sur la route de Paris faisaient cavaler par intermittence sur les murs de la chambre. Alors, Quentin ouvrait les yeux, écoutait le battement ordonné de l'horloge au cœur de l'hôtel, reconnaissait avec indifférence que la soixantaine avait sonné. Il se levait pesamment, piochait à tâtons dans un pochon de bonbons glissé sous son traversin, en essayant de dépister ceux à l'anis qu'il n'aimait pas, peut-être parce qu'il ressuscitait encore la saveur du pastis. C'est avec cette évasion nocturne que s'ouvre Un singe en hiver, le roman le plus célèbre d'Antoine Blondin. Paru en 1959, il sera mis en dialogue 3 ans plus tard par Michel Audiard pour le film d'Henri Verneuil, qui réunira Jean Gabin et le jeune Jean-Paul Belmondo pour un des duos les plus mémorables du cinéma français. Depuis qu'il a arrêté de boire, c'est sur son oreiller qu'Albert Quentin, la soixantaine, revit auprès de sa femme endormie les campagnes militaires qu'il a connues lors de ses années de service en Chine quand il était fusilier marin sur les bords du Yangtze-Kiang. Certes, depuis 10 ans qu'il s'adonne aux sucreries plutôt qu'à la bouteille, il ne remonte plus le fleuve aussi loin qu'avant, mais l'ivresse du songe et de l'aventure remplissent désormais son quotidien de patron d'hôtel.
Écoute, ma bonne Suzanne, t'es une épouse modèle.
Oh.
Mais si t'as que des qualités... Et physiquement, t'es resté comme je pouvais l'espérer. C'est le bonheur rangé dans une armoire. Mais tu m'emmerdes.
Albert.
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour. Mais tu m'emmerdes.
L'écriture virevoltante d'Antoine Blondin contraste avec la sourde mélancolie de ses personnages. Romancier, mais aussi chroniqueur du Tour de France pour l'équipe pendant près de 30 ans, son style décapant et ses bifurcations fantaisistes font la singularité de son écriture. Connu pour ses frasques dans la vie, Antoine Blondin s'est d'ailleurs mis en scène, ou plutôt caché, dans ce roman sous les traits de Gabriel Fouquet.
Monsieur Hainaut, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
C'est l'autre héros du roman, 35 ans, gueule d'ange, porté sur la boisson, qui vient perturber le quotidien immobile de Suzanne et Albert Quentin. Ça sent un peu la naphtaline au Stella, l'hôtel qu'ils tiennent sur la côte normande. Embarquons à leur suite à la découverte de l'étrange relation qui va se nouer entre deux solitudes désespérées, Albert, le vieux repenti emmuré dans sa fierté, et Gabriel, le jeune fou en fuite. Découvrons d'abord les lieux à travers le regard de Gabriel Fouquet. Après une nuit très arrosée dans Paris avec ses compagnons de bar, il est monté dans un train pour échapper à la solitude des lendemains qui pleurent. Par un 1er octobre pluvieux, le voilà donc qui arrive sur la côte normande. C'est pas le Maine à Tigreville, la commune qu'Antoine Blondin a imaginée dans les environs de Deauville pour y situer le Stella, l'hôtel tenu par Albert et Suzanne Quentin, où Gabriel Fouquet va bientôt « faire son trou », comme il le dit. Encore embrumé par l'alcool, le voici qui se parle à lui-même. Il faut bien reconnaître que la tentation de prendre la route, où la provocation se combine à la rédemption, est ardente chez l'ivrogne. Se retrouver en Normandie ne manquait pas de style. J'étais parti à chaud. Ce qui m'a réchauffé en arrivant ici, à l'hôtel Stella, c'est d'abord la présence de Madame Quentin. Dans une certaine mesure, les personnes d'âge me rassurent, surtout les femmes. Madame Quentin n'est pas une beauté, mais elle possède la noblesse que donne le gouvernement des objets, une autorité préservée contre les abus de pouvoir par les limites définies de son domaine. Elle est claire où il convient, précise et douce comme une lampe de chevet. J'ai tout de suite senti que je ne tombais pas exactement sous sa lumière, qu'il faudrait accommoder. C'est dans la pénombre, en revanche, que je risquais le plus de rencontrer Monsieur Quentin.
Venez, si vous voulez me suivre. Gardez la chambre plusieurs jours.
Je sais pas.
J'en connais plus d'un, de ces gros rochers confiants en expérience et en sagesse, qui s'ennuient à quelque distance les uns des autres en regardant tomber la pluie.
Voilà.
On a parfois envie de les faire sauter à la dynamite.
Ça m'a l'air parfait.
À la façon dont il m'a demandé si j'avais besoin de quelque chose avant de monter dans ma chambre, j'ai cru sentir que celui-ci était plein de replis caverneux. Il m'a semblé qu'il me tendait une perche aussitôt retirée. C'était le moment de donner une explication à mon séjour. J'ai hésité. Je n'en ai pas profité.
Bonne nuit, monsieur.
Les portes se sont refermées. Moi qui ai d'habitude le goût de tout livrer aux êtres pour les apprivoiser, de vivre sur le seuil de moi-même, trouvant qu'il fait trop souvent sombre à l'intérieur, pourquoi ai-je éprouvé le besoin, le soir de mon arrivée, d'intriguer ce couple tranquille? Peut-être ne savais-je pas très bien où j'en étais. Peut-être pressentais-je qu'il valait mieux faire naufrage avec le moins de papiers d'identité possible. Une première rencontre qui se noue donc sous le signe du secret et de la pudeur. Changeons de point de vue et arrêtons-nous un instant en compagnie de Suzanne Quentin, qui se remémore elle aussi l'arrivée de Gabriel Fouquet.
Albert ! Albert !
Qu'est-ce que c'est ?
Un client !
Descends.
Nous sommes dans leur hôtel, au charme provincial des années 50, où chaque objet a sa place définitive. Nature morte figurant du gibier écarlate, vieilles armoires et porte-manteaux perroquets. Solide, le visage cramoisi, Albert Quentin passe l'essentiel de ses journées retranché derrière le comptoir de la réception. Il est taiseux, autant que sa femme est curieuse. Interprétée dans le film d'Henri Verneuil par Suzanne Flon, elle est partagée entre une affection immédiate ressentie pour le jeune homme et l'étrange pressentiment qu'il est venu détraquer quelque chose dans leur ordre établi. Suzanne entend encore l'embrayage du taxi qui l'a amené de Deauville et s'en est retournée à vide vers le front de mer. Elle avait suivi le bruit du moteur jusqu'au tournant du boulevard. Au moment où tout allait à nouveau se recroqueviller dans le silence, un coup de sonnette a retenti, chargé de sentiments, du moins l'imagine-t-elle aujourd'hui. Les Quentin avaient fini de dîner depuis longtemps. Les fourneaux s'éteignaient, la cuisinière était rentrée chez elle, dans la campagne, sans qu'on eût servi un seul couvert. Un soir qui coulait comme les autres, douillet et repu. On avait sonné. Albert était allé ouvrir. Le jeune homme s'excusait d'arriver si tard et attendait dans le désarroi qu'on le présentât à Suzanne, venue se déranger aux côtés de son mari. Elle a trouvé qu'il avait le visage tendre et cabossé d'un ange repenti. Un bouton de sa veste de daim était décousu. Il ne portait pas d'alliance comme tous ces jeunes gens. On lui a donné la chambre numéro 8. Avant de monter, il a téléphoné longuement, cependant qu'Albert feignait de s'impatienter. Il faisait signe à Suzanne. « Va, tu vois bien qu'il en a pour un moment. » Pourquoi a-t-elle éprouvé le sentiment qu'il essayait de l'écarter, d'accaparer le visiteur? À cette heure-là, dans la posture d'intimité où ils avaient été surpris, Fouquet n'était pas un client. Il n'était plus des aubergistes, mais un couple indulgent. Ouvert sur les ténèbres, pour l'amitié et pour l'accueil.
Vous avez besoin de quelque chose ?
Cette phrase banale, aumône de palier consentie distraitement aux voyageurs, c'était à Suzanne de la prononcer. Venant de Quentin, elle a raisonné avec une conviction inhabituelle à quoi le garçon a paru sensible. Il a croisé le regard étrangement réveillé d'Albert, un regard sérieux et encourageant. Il a réfléchi avant de répondre qu'il ne croyait pas. Les autres répondaient toujours « non merci » machinalement. C'est sans doute ce qui a troublé Suzanne pour la première fois chez M. Fouquet.
J'ai la hantise des clés.
Antoine Blondin.
Je n'ai jamais eu de clé pendant très très longtemps de ma vie. Sauf quand j'allais dans les hôtels où on vous remet une clé et... J'avais pas de clé, j'étais quelqu'un qui est sur le palier un peu.
Et qui attend qu'on lui ouvre.
Et qui attend qu'on lui ouvre, qui espère qu'on lui ouvrira, qui ne sait pas toujours se faire ouvrir d'ailleurs. Et qui finalement, très obscurément et très profondément, ne souhaite peut-être pas qu'on lui ouvre non plus, parce que ça lui permet de redescendre sans avoir avancé sa visite et de continuer à ses gambades.
Il est temps à présent d'entrer plus avant dans l'intimité des deux aubergistes. Ce quotidien, pour le moins somnolent, règle leur vie depuis que Quentin a arrêté de boire. Il en avait fait la promesse à Suzanne quand le Stella a réouvert après la guerre, qu'à jamais l'odeur de la lavande régnerait désormais sur leur matinée. Ce serait le bonheur rangé dans une armoire. Le couple n'a pas d'enfant, mais à la grande satisfaction de sa femme, Albert a tenu sa promesse sans faille, ce qui lui vaut la réputation de bonne nuit dans toute la commune et alentour. Alors évidemment, depuis l'arrivée de leur hôte, la chambre de M. Fouquet s'est mise à vivre d'une existence particulière. Retrouvons Suzanne et Albert. En chemise de nuit et pyjama, ils sont au lit, l'hôtel est vide, les abat-jours sont éteints. Avec toujours bien sûr pour monsieur, ces fameux bonbons à portée de main. Suzanne mastiqua un gémissement et se tourna vers son mari avec une gravité domestique qui émut Quentin. « Tu croques, bonhomme, » murmura-t-elle. Autrefois, ces craquements sournois, cette déglutination satisfaite l'agaçaient. Comme au dortoir, beaucoup plus tôt, les ruminations à bouche cousue des autres filles. Maintenant, quand elle y prêtait attention, elle en tirait du réconfort. La nuit continuait de conspirer à la douceur des jours. Albert, surpris, avala son bonbon. « Tu devrais dormir, » dit-il. « Il est minuit passé. »«
Je dors. Monsieur Fouquet est-il rentré ?»«
Je l'ignore, » grogna-t-il. « Cela ne nous regarde pas. » Le plus bête, c'est qu'il y pensait lui aussi, pour des raisons encore imprécises, qu'il évitait de démêler, qu'il ne démêlerait peut-être jamais si ce garçon demain demandait sa note et l'horaire des trains, pirouette fréquente chez les clients au moment précis où l'on commençait à s'installer dans la sympathie ou l'aversion à leur endroit.
« Il est si jeune, » reprit Suzanne.
Quentin acquiesça. Pourtant, il savait que Gabriel Fouquet n'était pas si jeune, 35 ans. Les yeux frisés, les cheveux bouclés, le col ouvert, une harmonie hésitante dans les gestes, allégeaient cette silhouette fragile et un peu inachevée. Son passeport continuait d'indiquer la qualité d'étudiant, mais à la manière d'un pendule arrêté, et sa fiche de séjour indiquait que venant de Paris, il n'allait nulle part. Était-ce la jeunesse que de n'aller nulle part?
Ça va faire combien de temps qu'il est ici? Demanda encore Suzanne.
« 3 semaines aujourd'hui, » répondit scrupuleusement Quentin de cette voix grave et neutre qui était la sienne, depuis que la précision s'exprimait seule dans ses propos.
« T'es de la folie, » fit Suzanne.
« 3 semaines. On doit jaser en ville. » Quentin se dressa sur un coude. « J'espère qu'on ne dit rien, car on n'a rien à dire. Fouquet est sous notre toit, il est notre hôte, il fait ce qu'il veut. On t'a interrogé ?
On a essayé, naturellement. »
Il porte des chemises si voyantes et ce pantalon de velours. Si on était en été encore. Mais il détraque les saisons.
C'est triste, un jeune homme seul, conclut Suzanne.
Avant de reprendre dans un soupir,
si seulement on connaissait ses projets.
C'est admirable, dit Quentin froidement. Nous constatons à longueur d'année que les chambres se dégradent parce qu'elles sont inoccupées 8 mois sur 12. Nous déplorons que cette carence accable nos frais généraux. Et pour une fois qu'il descend quelqu'un à demeure, tu voudrais que l'aubaine t'appelle avant de s'endormir pour t'annoncer la couleur de son âme. Nous ne sommes pas dans un couvent ici. Te prendrais-tu pour la mère supérieure?
C'est de mon âge, répondit-elle. Trop d'aventures m'inquiètent. Trop peu m'étouffent.
Tu pourrais lui parler gentiment, lui demander combien de temps il pense rester. « Cela ne me regarde pas, je n'ai rien à lui dire. Ce garçon occupe dans nos soucis une place qui n'est pas la sienne. C'est notre faute, l'ennui en est la cause. »«
Il y a toujours une place pour un garçon chez de vieilles gens. »«
Celui-ci est trop loin de nous, et nous ne sommes pas vieux. Là-dessus, bonsoir. »«
Albert. »«
Tu m'emmerdes gentiment, affectueusement, avec amour, mais tu m'emmerdes. » J'ai pas encore les pieds dans le trou, mais ça vient, bon Dieu, tu te rends pas compte que ça vient.
Et plus ça vient, plus je m'aperçois que j'ai pas eu ma ration d'imprévu. Et j'en redemande. T'entends, j'en redemande.
L'imprévu? Qu'est-ce que ça veut dire?
Oh, rien, c'est les idées d'un autre monde. Et puis ne parlons plus de ça.
Parce que tu sais, si ça te manquait vraiment, si tu pensais trop, tu pourrais, je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi-verre.
Un demi-verre. Tu vois bien que si quelque chose devait me manquer, ce serait plus le vin, ce serait l'ivresse.
Quelques instants plus tard, Gabriel Fouquet fait une entrée remarquée dans l'hôtel. Après 3 semaines de repos apparent, de promenade, le gracieux jeune homme s'est glissé dans la vie régulière et sobre de l'hôtel. Jusqu'à ce soir, où, alerté par le vacarme dans le hall, Albert Quentin comprend qu'il est ivre. L'entendant trébucher dans l'escalier, le vieil homme enfile tranquillement son pantalon et sort placidement le rejoindre. Il va bientôt découvrir l'un des secrets de son hôte. L'ivresse lui permet de combler les trous noirs qui l'envahissent depuis qu'une certaine Claire l'a quitté pour aller vivre en Espagne. Depuis leur rupture, il s'évade grâce à l'alcool dans des vies parallèles, persuadé d'être un torero de renom international en escale à Madrid. Quentin prit Fouquet à bras-le-corps et le guida jusqu'au seuil de sa chambre. Loin d'en être irrité, il se plaisait vaguement à ce sauvetage. Mais il n'aimait pas pénétrer chez les clients. Désormais, l'intimité des autres le déconcertait. « Reste un peu, » dit Fouquet. « Je vais rassurer ma femme. Pauvre vieux. Pauvre vieille âne attachée à la noria. Ça va, » coupa Quentin. « Vous aussi, je vous connais de longue date. Jure-moi que tu reviendras me dire bonsoir. » Suzanne, inclinée sous l'abat-jour, guettait avec des yeux d'aveugle les échos de ce remue-ménage qu'elle s'efforçait d'identifier. « C'était Monsieur Fouquet, n'est-ce pas ?»« Oui, » dit-il à regret. « Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a un peu bu ?»« Non, » fit Quentin. « Il a rencontré quelqu'un. Ils se sont attardés. »« Il t'a laissé entrevoir ce qu'il était venu faire ici à Tigreville ?»« Mon Dieu !» fit Quentin, « ça te reprend ?» Albert Quentin laissa là sa femme et sortit sur le palier. Lorsqu'il entrebâilla la porte de Fouquet, celui-ci ne s'était pas déshabillé. Il reposait, étendu sur son lit, les mains croisées sur la poitrine, les yeux fermés. « Entrez !» murmura-t-il, après un mouvement de surprise et un lent sourire, comme s'il reconnaissait seulement son visiteur. Contre toute attente, la chambre était en ordre. Des papiers sur la table, des pipes dans un vase, 2 photographies de femmes nues épinglées sur les murs. Le jeune homme avait désiré s'aménager une cabine pour qu'elle traversait. « C'est gentil d'être venu, » dit Fouquet. « J'espère que vous ne serez pas déçus. Asseyez-vous, je vous en prie. Si, si, ça me fait tellement plaisir de vous voir. » Quentin, interloqué, se posa pudiquement sur le bidet. « Libérez le fauteuil, » ordonna Fouquet à la cantonade. « C'est un peu singulier ici, assez modeste, mais c'est toujours dans cet hôtel que nous descendons avec Claire. » En souvenir de la première fois quand nous n'avions pas d'argent et que nous nous sentions captivés et captifs dans cette ville merveilleuse. Les journaux estiment que je ne suis pas assez superbe, du moins je m'efforce de le cacher. Mes valets, eux, sont installés au palace. C'est presque nécessaire pour mon standing et je voudrais que vous les voyiez se rengorger. Mes valets sont espagnols, précisa-t-il. Je ne vous parlerai sans doute pas de la même façon en France, mais ici, tout me pousse à vous affirmer que je suis le seul grand matador français, plus grand que Pierre Schull. Yo soy uno, yo soy único. Je crois qu'il y aura du monde pour mes débuts aux arènes monumentales, reprit-il. Je les forcerai à me prendre au sérieux. J'ai longtemps rêvé de triompher à Madrid. Mais Claire ne sera pas là. Elle a ce spectacle en horreur. Elle m'attendra derrière un plateau d'écrevisses dans notre petit restaurant de la Puerta del Sol. Et moi, je descendrai de la grosse bagnole américaine que mon appréciario m'a loué pour la course. Peut-être Hemingway viendra-t-il prendre un verre avec nous. Il avait une expression heureuse qui ne trompait pas, qui ne trompait que trop. Espérons que cela se passera comme vous souhaitez, dit péniblement Quentin. Et il ne put s'empêcher de rire. D'abord, la chose lui sembla énorme, tant il s'était déshabitué des fantasmes. Mais la sincérité troublante de ses simagrées lui revint. Et il sut qu'en effet, Fouquet était presque à Madrid. Il s'en fallait d'un rien, un déplacement d'air, un mot malheureux risquait de corrompre l'imagination dont les châteaux sont à la merci d'un soupir. « Je vous éteins ?» demanda-t-il prudemment. « Non, » dit gentiment Fouquet. « Pourquoi cela ? Vous avez un costume de toréador ? demanda sérieusement Quentin, qui n'en eût pas été autrement surpris. Mon habit de lumière, dit Fouquet, est dans l'armoire. Puis avec un sourire pâle, la lumière m'empêche de dormir. Cette fois, Quentin se levait. « Je vous laisse, dit-il. Pauvre copain, murmura-t-il en sortant. Je m'en doutais un peu. Ça ne nous était jamais arrivé et il faut que ce soit lui. » Mais il le laissait dans ses vêtements qui sentaient l'alcool et la pluie. Et il se le reprocha lorsqu'il s'enfonça dans son lit bateau, frôlant la jambe morte de Suzanne, qui faisait semblant de dormir, attentive aux présages, et se demandait pour la première fois ce que les bons hommes remâchaient dans l'obscurité.
L'image de l'ivrogne m'a satisfait assez, et surtout les moyens de l'alcool m'ont comblé. Les opticiens ou les oculistes, je ne sais pas comment est-ce que l'on dit, parlent de verre de contact. Ils permettent de voir et de se rapprocher, d'entrer en communication. Et bien moi, je suis l'homme des verres de contact, du petit verre de contact. Et ça m'a réussi relativement bien.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
On a rien sans rien, on a rien sans mal. Oh oui, la vie est un siffrette de victoires et de défaites. Et l'amour, c'est jamais qu'un plaisir comme un autre, à part que la descente, elle, elle est autrement forte. Ma bouteille est une amante fidèle, et je ne sors plus jamais sans elle. Comme ils sont étranges, les revers de la vie, la météo qui change. Tu m'aimes, mais t'es parti. Et moi je reste seul ici comme un connard. Encore heureux que je me sois mis à boire. Ma bouteille est une amante fidèle, et je ne sors plus jamais sans elle. J'ai perdu ton amour, mais j'ai trouvé l'alcool. J'ai perdu ton amour, mais j'ai trouvé la calme. Tu sais, pas besoin d'essayer de m'appeler maintenant. Je me débrouille très bien. D'ici 5 ans, je t'aurai oublié. Et l'amour, jamais qu'un plaisir comme un autre, à part que la descente, elle, elle est vraiment forte. Ma bouteille est une amante fidèle, et je le sors plus jamais sans elle. Encore, et ma bouteille est une amante fidèle, et je ne sors plus jamais sans elle. J'ai perdu ton amour, j'ai trouvé l'alcool. J'ai perdu ton amour, mais j'ai trouvé l'alcool.
Ce lien entre l'ivresse et l'imagination est au cœur du roman. C'est lui qui scelle la complicité entre les deux héros, qui se reconnaissent l'un et l'autre comme de grands princes de l'ivresse. De sous-entendu en confidence avortée, il navigue sur les ondes de l'ivresse ou de son souvenir. Voici quelques étapes de leur épopée. Un soir, face à Fouquet en pleine divagation, Albert se livre au-delà de la raison. Il nous confie ce souvenir qui explique le titre du roman d'Antoine Blondin. Ce désespoir cascadeur finissait par être contagieux. Il trouvait que la vivacité de Gabriel donnait à celui-ci le masque de la santé, le fauné de la faim de vivre. Quentin pouvait le laisser retentir chez lui en ondes plus larges encore, plus profondes aussi. « Il est arrivé que j'ai bu, » dit-il. Et comme par miracle, je me retrouvais dans mon village natal, près de Blangy, en Picardie. On m'a raconté que je m'installais à la gare à côté du Portillon pour chercher mon père. J'arrêtais les voyageurs, je les questionnais, je les injuriais. J'en arrivais à oublier qu'il était mort à l'époque de ma naissance. Je n'ai jamais bien su comment il était fait. Au bout de 24 heures, les employés du chemin de fer qui me connaissaient m'avançaient l'argent du billet de retour et je rentrais ici la tête vide, presque heureux. Ça me rappelle ces singes égarés que j'ai vus dans certaines villes d'Orient. Quand le climat devient trop rude ou qu'ils sont trop nombreux, on les rassemble et les populations se cotisent pour chauffer un train spécial qui les ramène dans leur forêt. À ceci près que je me sentais très seul pendant le parcours. Il s'arrêta, frappé par l'ampleur de cette confidence. Il n'allait tout de même pas remettre en question cette affaire classée parce qu'en face de lui, un gamin était ivre-mort. Mais ses cœurs ouverts sont vertigineux. « Point final !» dit-il.
« Salut !»«
T'en viens, Père Rouget ?»«
Ils sont bien, mais ils sont tenus. Moi aussi, je te retiens. Je te remercie pour la soirée d'hier. »«
Quelle soirée ?»«
Bon, c'est pour celui qui comprend pas. Ton client, là, ton espagnol. 12 verres cassés, ça te dit rien ? Des ivrognes, il y en a assez dans le pays sans que tu les fasses venir de Paris. »
Un ivrogne.
Oh ben un peu, oui. Même que le père Bardas qui boit 15 pastis par jour, il n'en venait pas.
Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, et le père Bardas. Les grands ducs et les boissons soif.
Les grands ducs?
Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Tu te demandes pourquoi ils picolent, l'espagnol? Et pour essayer d'oublier des pignoufs comme vous.
Lors d'un autre face-à-face nocturne avec celui qu'il appelle désormais affectueusement « mon vieux papa », Fouquet se fait la promesse de réussir à faire flancher le vieux singe. Tout le monde dort. Et nous, nous sommes là tous les deux. N'est-ce pas merveilleux, mon vieux papa? Arrosons cela avec votre permission. C'est que je vous aime bien, mon vieux papa. Je ne vous le montre guère, mais je vous aime beaucoup. Toujours calme comme ça, toujours tranquille. Et puis, par en dessous, la souffrance. Car vous souffrez, je l'ai bien compris. De quoi? De la soif. Ne me dites pas le contraire. L'alcool, c'est le salut dans la fuite, la liberté, l'état de grâce, et pour finir, une belle saloperie. Sait-on jamais ce que c'est? Ce va-et-vient aux abîmes est un trajet solitaire. Ceux qui remontent de ces gouffres se sont cherchés sans se rejoindre. Seule la cruauté du jour rassemble leurs troupeaux errants. Ils renaissent douloureusement et se retournent. La nuit a effacé la trace de leurs pas. « Maintenant, couchons-nous, » insista Quentin. « D'accord. On prend le petit dernier et on s'emballe les bibelots ?»« Ça ne m'intéresse pas, monsieur Fouquet, vous savez bien. »« Bravo !» dit Fouquet sur le ton du sarcasme. Il se leva, tituba jusqu'à la porte où il se retourna. « Eh bien, mon vieux papa, rappelle-toi une bonne chose. Toi, je t'aurai. »
C'est quand même triste, un jeune homme seul devant sa soupe.
Bien sûr que c'est triste, seulement si je l'invite, tu diras encore que je m'indigance des trucs.
Parlons plus de ça, va. Monsieur Fouquet, nous n'aurons plus de clients à cette heure-là. Si ça vous ennuie pas de venir à notre table...
Retrouvons Gabriel Fouquet, sobre cette fois, mais dans un moment qui va précipiter la suite du roman. Il est convié à la table familiale de Madame et Monsieur Quentin, ce dernier lui ayant proposé de goûter un cru de 1945.
Tenez, vous allez me goûter ça. Ma femme vous tiendra compagnie. Marie-Jo!
Oui, monsieur?
Venez donc ouvrir la bouteille, là.
Le vin était bon, mais Gabriel Fouquet ne trouvait pas gai du tout de le boire dans ce recoin sans écho. Le processus se répétait à intervalles imprévisibles. Albert Quentin faisait un signe à Suzanne, celle-ci tendait une main tiède vers la bouteille, Fouquet regardait Albert, celui-ci retournait avec ostentation son verre sur la nappe, le pied en l'air, et la tête chercheuse de la bouteille s'en écartait, comme dégoûtée, pour revenir plonger dans son verre à lui, par un miracle de la cybernétique. Si j'en faisais autant, pensa-t-il, je déclencherais un concert de protestation, ou pire encore. Il y aurait ce murmure d'assentiment incrédule que j'exècre, et il me faudrait prendre une mine vertueuse. Il n'y a pas deux solutions, ou j'abrège, ou je me saoule. Il s'ennuyait, s'enlisait dans un langage de chanoine épicurien, s'en voulait de ne pas remuer davantage l'atmosphère, sentant que l'imagination de Quentin retombait comme un soufflet. Certes, il y avait quelque chose de touchant dans cette soirée qui faisait du bien, mais la flambée ne s'opérait pas. C'est un dîner sous le signe du chauffage central. « Avez-vous fumé l'opium lorsque vous étiez en Chine ?» demanda Fouquet. « Certainement, dit Quentin. J'ai voulu tout connaître. J'ai fumé à Shanghai, j'ai fumé à Hong Kong, à travers des rues éclairées par des lampions où des squelettes vous guidaient vers un bas-flanc. Et maintenant ?»« Maintenant, il m'arrive de rêver que je fume. C'est le retour de l'âge. Fouquet eut la révélation des ravages qu'on pouvait provoquer dans cette existence. Et la tentation lui fut bouleversante. Il ne s'agissait plus de satisfaire une gageure, ni de ramener un homme au charivari amical. Il s'agissait de le pervertir. Le bout de la route, l'obstacle auquel il se heurtait depuis un mois, cette volonté opaque qu'il essayait de contourner, tenait dans la résistance de cet homme au charme que Fouquet exerçait sur lui. Il prenait soudain conscience de cette puissance en lui, insoupçonnée, et de la destination qui lui était assignée. Une épreuve de force était ouverte devant laquelle il ne pouvait se dérober. « Vieux, pensa-t-il, prépare-toi. Je ne suis pas venu pour te détruire, mais pour te réveiller. Je suis un de ces avions porteurs de bombes qui attendent leur signal rouge, et mon objectif est à 2 mètres de moi. » Un mois a passé. Le samedi de la Toussaint, la vie se réactive à Tigreville. Un afflux massif de visiteurs arrive de toute l'Europe pour parcourir les cimetières militaires de la région. Il y a donc foule ce jour-là au Stella. C'est le moment que choisit Gabriel Fouquet, au sommet de sa forme, pour donner corps à ses fantasmes de torero. La légende veut d'ailleurs que l'écrivain se soit lui-même livré au même exploit, boulevard Saint-Germain à Paris. Un combat en pleine rue avec des voitures. Dans le roman, cette scène va exalter l'amitié d'Albert Quentin pour son jeune hôte. Alors qu'une excitation soudaine gagne la salle à manger, la femme de chambre arrive en courant de l'extérieur pour alerter Suzanne et Quentin.
Madame, monsieur, venez voir. Monsieur Fouquet est sur la place. Il se livre à de drôles de choses.
Nom de Dieu, fit Quentin. La plupart des hôtes du Stella étaient rassemblés dans le jardin, la serviette à la main et regardaient vers la place où des gens penchaient le buste au balcon. Un attroupement commençait à se former sur le trottoir. La curiosité tendait les visages, amusée chez certains, anxieuse chez d'autres. Au milieu de la place, Fouquet se dressait, les reins cambrés, la tête portée en arrière, l'œil fixé sur le débouché de la route de Paris. Il avait retiré sa veste qu'il tenait largement déployée sur l'extrémité de son bras droit, l'agitant par de brèves saccades du poignet qui lui faisaient frôler le bitume. La main gauche écartée sur l'estomac, pétrissait un jabot imaginaire. Il a déjà évité 3 automobiles, s'exclama un Belge. Évité, vous ne comprenez donc pas qu'il les recherche, s'écria un autre. Bande de salauds, fulmina Quentin, fendant les groupes pour s'approcher de la grille. Fouquet, qui accomplissait le tour de la place à petits pas provoquants, l'aperçut. Lui dédia un sourire et une inclinaison du torse, puis, sortant un mouchoir de sa poche, le lança sur la chaussée dans la direction de l'hôtel. À peine avait-il achevé ce geste qu'une voiture s'engagea sur l'espace vide. D'abord hésitante, elle prit de la vitesse dans le virage et on vit le jeune homme s'avancer dans une posture de défi pour lui couper la route et l'inciter à venir sur lui. On crut comprendre qu'il l'appelait avec des mots voluptueux. Le chauffeur n'avait plus le loisir de ralentir. Immobile, le ventre à toucher le capot, les pieds joints, Fouquet enveloppa d'un mouvement caressant la carrosserie de la voiture qui filait contre lui. Un instant, il donna l'impression qu'il allait abandonner sa veste au flanc hérissé de l'auto, mais déjà celle-ci l'avait dépassée et coinçant son vêtement sous son bras. Il libéra sa main droite pour saluer à la ronde les spectateurs qui s'exclamaient diversement. « Olé !» dit-il en ramassant le mouchoir sur lequel on distinguait la trace d'un pneu. Quentin n'en revenait pas. « Quel petit con !» murmura-t-il. Déjà une nouvelle bagnole jaillissait sur la place dans la fanfare de son klaxon. Soleil et trompette sous le crâne de Fouquet, prendre l'ascendant sur le fauve, ne pas rompre d'un pouce, s'engager de face. L'animal est somptueux, fort sur pattes, le front large entre ses cornes comme des phares. Il arrive entier et charge de loin. Encore quelques mètres et il sera sur lui. C'est le moment de la mise à mort. Il plonge dans le berceau des cornes et accepte la mort pour mieux la donner, récita-t-il. Olé ! La calandre de la Chevrolet, tanguant sur ses amortisseurs, frémissait contre la cuisse de Fouquet qui avait posé une main dominatrice sur le radiateur et paraissait radieux. L'énorme engin avait littéralement freiné sur place et l'on avait pu craindre jusqu'à la dernière seconde que le piéton ne fût broyé entre les roues. 2 portières claquèrent en même temps. Un homme et une femme se précipitèrent, le poing levé. « Qu'est-ce que c'est ?» fit Quentin en s'interposant. La foule grossissait en cercle autour de la voiture et Fouquet, dont le front ruisselait de sueur, considérait avec affection ce public qui l'encadrait dans l'hostilité. devant ces personnes qui sont venues voir leur mort, c'est une honte, cria un passant.
Vous allez lui foutre la paix, rugit Quentin. Vous voyez bien qu'il n'est pas dans son état normal.
Justement, dit le conducteur, je demande les gendarmes, qu'on aille les chercher. Les gendarmes finirent par se pointer.
Oh là, carabinier, quel mal ai-je fait, protesta Fouquet. Ce public est bien ingrat, je lui en ai pourtant donné pour son argent.
Les gendarmes empoignèrent Fouquet et la foule leur emboîta le pas une partie du chemin.
Enfin, s'exclamait le jeune homme, c'est la sortie en triomphe des arènes. Les aficionados me font conduire à travers les rues.
Puis à Albert Quentin.
Appréciez, monsieur Quentin, c'est une récompense exceptionnelle décernée à la bravoure et à la science.
T'en fais pas, petit, j'ai pas dit mon dernier mot, grommela Quentin, qui suivait avec les autres, la cravate dénouée, le col ouvert, tant il se sentait bouillonné.
Nous approchons de la fin de l'épopée, et ce qui devait arriver, arriva. Après tant d'années d'une discipline absolue, Albert Quentin accepte de lever son verre.
Son ami libéré, il l'emmène dans un abri isolé où il a passé beaucoup de nuits autrefois. Une vieille bicoque perdue dans la campagne est tenue par une certaine Madame Annie. Avec la conscience savoureuse de la pente sur laquelle il s'engage, Albert Quentin l'invite à entrer dans cet antre exotique.
Bonjour Annie, je vous présente un toréador.
Fouquet découvrit un étroit couloir recouvert de cloisons de bambou auxquelles étaient accrochés des éventails, des sabres de samouraï et des potiches en porcelaine surplus disparates d'un billard japonais. Des lanternes de papier filtraient à mi-hauteur une lumière rougeâtre qui n'éclairait que le sommet des crânes. Annie était une femme sans âge, aux formes parfaites. Une indo-chinoise sans doute, reconnaissable à ses paupières légèrement bridées.
« Je ne garantis pas que tout cela soit authentique, dit Quentin, mais par grand vent, ça peut faire illusion. »
Fouquet perçut avec netteté qu'il n'était plus exactement en présence de l'homme qu'il connaissait. Celui-ci jetait sans contrainte des regards autour de lui, ôtait sa cravate et la fourrait dans sa poche, gonflait la poitrine pour aspirer tout le décor et une odeur entêtante d'alambic et de parfum de luxe.
« Qu'est-ce que je vous sers ?» demanda Annie.
« Vous confectionnez toujours cette espèce de saké ?»
« Certainement, dit-elle. On vient d'assez loin pour le boire. »«
Alors ce sera deux, » fit Quentin en posant doucement son poing sur la table.
« On dit saké par convention, » expliqua-t-il très vite pour fuir le regard de Fouquet. « C'est un marc d'alambic particulièrement tortueux. Tout est faux ici, mais qu'est-ce que ça peut foutre après une telle corrida ?»
Ainsi, Quentin se retrouvait avec un verre devant lui. Il avait encore dans l'oreille les rumeurs de la place, des montées de colère contre tout le monde, une grande tendresse pour ce petit frère aux boucles collées qui cavalait derrière ses démons jusqu'au bout. Lui, qu'avait-il fait depuis 10 ans? Il avait sucé des bonbons en se donnant des bons points. Premier prix d'impassibilité. Premier prix de renoncement. Premier prix de prudence. Surtout pas de vagues, pas de remous. 10 années parcimonieuses retranchées derrière des barricades médiocres et un serment. Et puis, vieil hypocrite, se dit-il en lui-même. Reconnais que tu meurs d'envie de boire un coup comme les autres. Et que l'occasion n'est pas prête de s'en représenter sous un jour aussi fastueux. Il vit que Fouquet, les jambes croisées sur le côté, le dos voûté, évitait de le regarder. Le jeune homme ne se réinstalla en face de lui que lorsque Quentin eut avalé la première gorgée qui lui tira les larmes des yeux. Ensuite, immédiatement, ce fut la chaleur. Ils reparlèrent de la corrida en demandant à Annie de remplir leur verre. Quentin déjà ne suivait plus très bien les propos de son interlocuteur. Il en vint à raconter une histoire de pirate qui lui tenait particulièrement à cœur. Il reprenait une aisance toute neuve, bloquant son torse entre la table et le mur pour parler à la fois à l'intention de la salle, qui était vide, et de Fouquet, qui l'écoutait dans le vague.
« Bon, mon petit gars, » dit-il mollement, « il serait temps de rentrer à la caserne. »
Les voyant se lever, Annie proposa d'offrir la tournée de la patronne. Qu'ils savourèrent comme un sursis. Une heure plus tard, ils étaient toujours là, sans inquiétude aucune, pénétrés du bien-être qu'ils ne s'avouaient pas de s'être mis hors la loi.
« Je bois à l'amiral Rigaud de Guenouy, sans qui notre hôtesse Annie, née à Saigon, n'aurait jamais eu une patente de bistrot dans le Calvados, » lança Quentin finement. À la santé d'El Gallo, le divin chauve qui est stocka voici 30 ans, le célèbre taureau Boabdil pour la Mersade de Barcelone, répliqua Fouquet. À l'honneur de Francis Garnier, père des Marsouins du corps expéditionnaire. À la mémoire de Manolote, tomber, la mouletta à la main, aux arènes de Linares.
Il n'était pas dupe de ces litanies un peu forcées, mais on ne fraternise pas autrement d'un régiment à l'autre. Le désir de ne pas perdre pied devant le compère les entretenait dans la boisson. À la fin, Annie se crut tenue de les prévenir. « Sale temps, messieurs. Si vous continuez, vous allez vous saouler tous les deux. »
« Tu as presque raison, » reprit Quentin. « On n'est pas venu ici pour jouer au mahjong. Allez, fils, on va redescendre en ville. »
« La bienvenue, Albert. Je me disais toujours, ça peut pas durer. On le reverra un jour. Et t'en voilà, comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens maintenant de moi. »
Oh.
Et ce n'est qu'un coup de semonce. À vous.
Ah, oh, laissez-moi, hein.
Rechez-vous tout de suite, j'appelle les gendarmes.
Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, ça aurait pas dû les relâcher.
Ils laissent les dents, ils sont ronds comme des boules.
Oui, monsieur. Plein comme la mer, en suquet à rebord. Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein. Eh ben, ça y est. Comme ça, vous pourrez causer et gayer vos soirées d'hiver. Ah.
Albert, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
T'as raison, va. On a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon.
Et lesquels, va, qui c'est qui va les payer?
Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
On méprise.
On s'est tous descend, un soir de cafard, en mâchant son blouse, en broyant du noir, pour garder l'espoir, même sans y croire. Ça finira bien mal, si c'est par hasard qu'on rencontre un pote, qu'on s'aime sans savoir pourquoi il va venir, pourquoi on va le voir une nuit trop blanche, un matin blafard, ça arrivera bien, un soir de fatigue. Tiens, salut ma pomme, tiens, bonsoir Tizi, tu m'as vu, moi je te connais pas, j'ai comme un feeling, oh là là, oh mes amis. Je n'avais que vous, oh mes amis, et nous étions fous.
Restons sur les routes escarpées en compagnie de nos deux hommes, le vieux repenti et l'archange cabossé. Eux deux, fiers de n'avoir pas le vin petit ni la cuite mesquine, partagent désormais les fantaisies d'Albert Quentin qui vont les mener jusqu'à l'éclat d'un bouquet final. Alors qu'ils s'enfonçaient dans la nuit, Quentin poursuivait sa réflexion.
« Moi, je voudrais qu'on sache qu'un jour, un jeune homme et un vieux se sont avancés ensemble vers... »
Il eut un geste ample. « Vers quoi, au juste ?» demanda Fouquet sans enthousiasme.
« Je sais pas. Il fait trop sombre dans ce sacré bled. Quand tu penses aux autres villes, je me dis que ce serait le moment de lui balancer une fusée éclairante. Un rêve de fusée éclairante. Pour le peindre un peu en rouge.
Une fusée ?
Ben oui. De bons gros pétards pour le réveiller un peu, pour lui dire qu'on existe. J'en ai contemplé des feux d'artifice ici durant la dernière guerre. Dans un sens, on y voyait mieux qu'aujourd'hui. Il doit bien en rester quelque part, comme des mines dans la falaise, comme des armes cachées.
Tes fusées, tu les trouveras autour de l'église, dit Fouquet, entraîné malgré lui. Chez un barbu que je connais. Cet homme-là, c'est le passé en boutique et le secret en conserve. Alors qu'Ostella, on commence à s'inquiéter de leur absence, les voici qui débouchent en pleine nuit sur la place de l'église. Après avoir réveillé puis supplié le vieux commerçant, ils négocient un chef-d'œuvre de l'artisanat pyrotechnique datant des années 30, une vingtaine de caissons qu'ils transportent jusqu'à une petite crique. Concluons donc avec le feu d'artifice qu'ils offrent à Tigreville. Un dernier geste comme un ultime hommage à l'ivresse. Le programme prévoyait en annonce 23 marrons d'or et 10 bombes étoiles multicolores. À la première déflagration qui ébranla l'immeuble, Suzanne et la majorité des Tigrevillois crurent qu'une mine venait de sauter. La menace n'en était jamais tout à fait écartée des préoccupations locales. Bientôt, des bruits de course et des exclamations parcoururent les rues. Suzanne se rendit sur le pas de sa porte. Au ciel, les saxons papillons butinaient les éventails à surprise, les flots rotatifs s'égaraient dans les jardins suspendus.
« Very nice !» s'extasia un anglais. « Is it son et lumière ?»
Une petite foule était rassemblée à l'extrémité de la digue promenade vers la côte des Mouettes, dont les contours s'embrasaient sous les flots d'une cascade féerique à effets multiples avec 15 ifs à jets de couleurs accompagnés d'un assaut de 40 bombes orientales. Suzanne reconnut son mari et Fouquet dans les silhouettes saccadées et fuligineuses qui passaient en un instant de l'ombre à la lumière, galopaient sous un éclairage panique entre les blocos, boutaient l'étincelle au poste de feu. L'image imposait si fortement le spectre de la guerre que quelqu'un ne put s'empêcher de reparler des mines et qu'il s'ensuivit une grande confusion jusqu'à ce que les volontaires se fussent proposés pour aller rechercher les artificiers téméraires. Fouquet s'activait à combiner une batterie de chandelles romaines en admirant de temps en temps Quentin, le torse ruisselant de sueur, le visage barré de fumée, qui disposait les éléments du grand bouquet moderne final. Une centaine de bombes, tout calibre et toute catégorie. Lorsque son compagnon l'attrapa aux épaules. « Regarde, foutons le camp !» Sur le sable, les sauveteurs menaçants s'amenaient de front pour leur couper la retraite. Et légèrement derrière eux, on distinguait Suzanne, prête à parlementer. À l'abri de l'écran provoqué par l'éclat éblouissant du grand bouquet, Quentin entraîna Fouquet vers les rochers. Le départ tournoyant des comètes au-dessus de leur tête leur dessinait des auréoles de seins. « Si tu en as la force, on va essayer d'escalader la falaise pour gagner directement le plateau. » Ils commencèrent l'ascension, dans les éboulis d'abord, ensuite en s'accrochant aux racines des sapins rabougris qui essayaient de pousser sur le roc. Quentin était prodigieusement robuste pour son âge. Fouquet s'essouffla le premier et demanda un répit. « Tu te sens mieux, dit-il avec rancœur. Tu te sens mieux quand tu me donnes la leçon de gymnastique ?» Quentin éclata d'un grand rire. « Petit con, c'est des trucs que l'on fait que lorsqu'on est sous. Suis-moi, on mourra ensemble. Viens par ici. » Haute, désolée, les campagnes attendaient. Au loin, vers le rivage, les perles de la Manche reposaient dans leur écrin tranquille. Quentin se coucha dans les herbes sèches et sombra aussitôt. Fouquet s'allongea bientôt auprès de lui. Le sommeil les prit virilement.
La littérature, considérée dans une perspective amicale qui, à mon avis, est la seule valable et à laquelle alors, je marche totalement, veut que un livre soit une lettre que l'on écrit à un ami.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission, réalisée par Xavier Pestugia avec à la technique Olivier Dupré, a été préparée par Estelle Gap, Leïla Kourousselikoua, Perrine Malinge et Claire Tesser. Bonne soirée et à la semaine prochaine.